Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
La Russie est en train de détruire l'Ukraine dans une guerre insensée. Déjà, des centaines d'enfants sont morts dans les écoles bombardées. Des millions de réfugiés fuient vers l'Europe. Dans ce contexte, c'est aussi l'architecture qui est touchée. Bien plus que la destruction de bâtiments, c'est la culture ukrainienne que Poutine semble vouloir anéantir. Un patrimoine unique au monde. À l'heure où je vous parle, les villes de Mariupol, Kharkiv, Mykolaiv et Valnokova ont été presque entièrement détruites. En plus de la catastrophe humanitaire, comment mesurer la catastrophe culturelle qu'est en train de subir l'Ukraine ? Pour en parler, l'architecte ukrainienne Marina Lukasheva, basée à Marseille et originaire d'Odessa, Martin Duplantier, architecte à Paris et Bordeaux, président de l'association AMO, il est à l'origine d'une initiative d'entraide entre architectes français et ukrainiens. Bonjour et bienvenue dans Prisme.
Il y a quelques jours, je me suis réveillée à 5h du matin. J'ai entendu qu'ils bombardaient. J'ai vu l'horizon en feu. J'ai compris que la guerre commençait. J'habitais dans une ville paisible. C'était impossible d'imaginer ça. Moi-même, je n'y ai pas cru. Toute la journée, du plus profond de la nuit jusqu'au petit matin, la ville était sous les attaques aériennes. Comme une grande journée noire pendant 10 jours. J'ai donc dû quitter ma ville. J'ai pris le train. C'était très compliqué, très dangereux, très risqué. J'ai emmené ma mère, mon chat. J'ai laissé toutes mes affaires dans mon appartement, qui plus tard a été détruit. Et on est parti, n'importe où, mais vers l'ouest. Là, je suis à la campagne. Ma situation est dingue. Je comprends pas ce que je fais ici. Je n'arrive toujours pas à croire que la guerre est arrivée. Tout le monde essaie de sauver sa peau ici. Si vous traversez la frontière vers l'Europe, peut-être qu'il y aura une place pour les Ukrainiens. Les avions volent au-dessus de ma tête tous les jours. Et je ne sais pas comment ce sera demain. Alors peut-être que je vais partir moi aussi.
Ce que vous venez d'entendre, c'est le témoignage de notre consoeur Anelina Starkova, basée à Kharkiv. Anelina est une brillante architecte, ingénieure, chercheuse et théoricienne de l'art, des architectures et des nouvelles méthodes formelles de conception architecturale. Elle travaille avec des architectes et des institutions de renommée mondiale, et ses projets ont été largement publiés et exposés. Donc on va entendre son témoignage à plusieurs reprises, puisqu'elle a vécu en ce moment la guerre. Son agence a été détruite, son appartement, et aujourd'hui elle n'est pas encore partie, elle peut pas partir. On va expliquer un peu pourquoi aussi tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez troublant. Donc au sommaire de cette émission, nous écouterons bien sûr la suite de son témoignage, et nous retrouverons aussi l'édito de David Trottin. Bonjour David.
Bonjour.
Et notre carte blanche aujourd'hui est accordée à Isabelle Régnier, journaliste en charge de la rubrique Architecture et Patrimoine au journal Le Monde, qui s'est rendue à Chelm, en Pologne, dans le centre d'hébergement d'urgence de l'architecte japonais Shigeru Ban. Bonjour.
Bonjour.
Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements à ne pas manquer avec Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture. Bonjour Dominique.
Bonjour Olivier.
Martin Duplantier, franco-belge, vous avez grandi à Bordeaux et aux États-Unis. Vous êtes diplômé d'HEC Paris, de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et master de l'Institut d'urbanisme de Bordeaux en 2012. Avant de fonder votre agence en 2007, vous avez travaillé en Chine, au Mexique, au Niger et ainsi qu'à Berlin, à Londres. Vous êtes également président de l'association AMO, architecte et maître d'ouvrage depuis 2017. Architecture et maître d'ouvrage. Dernièrement, vous avez initié un mouvement d'entraide entre la France et l'Ukraine pour l'accueil des professionnels ukrainiens en France. Et vous faites également un inventaire régulier du patrimoine détruit ou menacé par les bombardements russes. Bonjour.
Bonjour. Oui, en effet, on a lancé cet appel auprès des structures françaises accueillantes. Alors moi, je dis, on est plus que à l'AMO, on n'est pas simplement architecte. Il y a aussi beaucoup de maîtres d'ouvrage, beaucoup de d'aménageurs, de bureaux d'études. Voilà. Donc c'est vraiment tous les métiers de la ville qui ouvrent leurs portes aux professionnels ukrainiens qui souhaitent venir en Europe, venir en France, pouvoir continuer à vivre de leur métier, puis préparer aussi l'après, c'est-à-dire le moment où cette guerre va enfin prendre fin et où on pourra penser à la reconstruction. Et donc on a besoin de garder ce savoir-faire, ces connaissances, ces personnes-là en activité pendant toute cette période-là. Donc on a eu beaucoup de propositions de structures françaises qui ont ouvert leurs portes, ouvert des postes pour les professionnels ukrainiens, et on a malheureusement aussi beaucoup de demandes côté ukrainien. Donc tous les jours on reçoit énormément d'appels, de alors on a un Google Form qu'il faut renseigner, puis après il faut monitorer tout ça, parce qu'en fait même si on dit bah oui moi je suis d'accord, j'ai deux postes, etc., un hébergement potentiel, hein, après derrière il faut que les choses se fassent, les gens sont comme on vient de l'entendre, parfois dans le fin fond de la partie est de l'Ukraine, d'autres à Lviv, d'autres côté polonais ou ailleurs, ils sont écartelés avec les différents membres de leur famille qu'il faut essayer de rassembler. Donc c'est voilà, le chemin est pavé d'entraves, et donc il faut les aider vraiment, et donc voilà, c'est pas simplement vous vous inscrivez et puis tout fonctionne, c'est derrière beaucoup de travail.
On va revenir dessus avec des informations pratiques aussi à communiquer. Marina Lukasheva, vous êtes franco-ukrainienne, vous avez grandi à Odessa, vous vous sentez marseillaise d'adoption et de cœur.
Oui.
Après des études en master en relations internationales, vous avez toujours été attirée par la création artistique. Vous avez étudié l'architecture à l'Académie d'État d'Odessa pendant 5 ans. Puis vous avez complété votre formation en France par une année de master à l'École nationale d'architecture de Marseille. Vous avez collaboré avec de nombreux architectes et plus particulièrement avec Rudyric Chetty. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous jeter à l'eau et vous êtes architecte en votre nom propre. Bonjour Marina.
Bonjour. Bonjour Olivier.
Alors dernièrement, vous avez été particulièrement choquée par les photos de votre ville menacée d'être bombardée. Qu'est-ce que ça vous fait, surtout quand on entend le témoignage d'Anilina Starkova?
Oui, on est resté en contact avec Anilina pendant toutes les périodes de guerre. C'est terrifiant. Tout simplement parce que ça me touche aussi. J'ai vite ressenti ce syndrome de survivant quand tu restes en distance, mais tu sens toujours cette culpabilité parce que tu n'es pas présent, tu ne peux pas aider les gens. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a créé une association pour aider les femmes et les enfants qui arrivent à Marseille et région du Bouches-du-Rhône. Et bien évidemment, c'est pas facile de regarder tout ce qui se passe avec les patrimoines d'Ukraine. Heureusement, Odessa, elle n'est pas encore touchée autant que d'autres villes. Mais par exemple, une photo que j'ai vue, le statue des ducs de Richelieu qui était protégé par les sacs de sable. Parce que c'est vraiment le symbole de notre ville. Ça, pour moi, c'est une image choquante.
Alors, revenons un instant avec Anilina Starkova, qui va nous témoigner de l'ampleur des démolitions à Kharkiv.
Dans Kharkiv, près de 800 bâtiments ont été détruits. Nous avons de magnifiques et importants monuments historiques dans le centre-ville. Un grand ensemble des années 30 qui utilisait des innovations technologiques impressionnantes pour l'époque. Tout ce centre-ville a été détruit. Les endroits les plus précieux, où il y avait nos souvenirs, qui témoignait de notre passé. Notre paix a été détruite, vous savez. Ils ont commencé à détruire les écoles, les hôpitaux, les églises, les universités. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Dans la guerre, il y a des règles. Mais quand vous détruisez des hôpitaux, des écoles, des enfants meurent. C'est un génocide. C'est du terrorisme. Ce n'est pas une guerre. Ils essaient de détruire l'histoire de la culture ukrainienne. Le maire de Kharkiv est super courageux. Il est là. Il croit en la victoire. Il fait tout son possible pour que les gens trouvent la place dans les bunkers, le métro, les tunnels. Oui, c'est triste de parler de ça. Ce n'est pas facile.
Marina, Comment vous réagissez par rapport à ce témoignage, puisque vous connaissez, je crois
Oui.
Est-ce que vous avez peur aussi, vous, pour Odessa, de cette manière de comme elle dit, de vouloir tuer la culture ukrainienne?
Oui, c'est ce que j'imagine, en fait, la politique de guerre actuellement, c'est dénationalisation, déukrainisation. Donc, en fait, c'est déraciner les peuples de leur culture, de sa culture ukrainienne. Pour moi, en fait, c'est une génocide culturel, tout simplement. Et je ne vois pas comment c'est possible, vu la résistance du peuple ukrainien. Aujourd'hui, on voit que l'Ukraine, le peuple ukrainien, naît, en fait, et crée cette nouvelle identité, qui était un peu perdue entre l'héritage soviétique. C'était, en fait, cette période entre la chute du RSS dans les années 90. Et actuellement, le peuple ukrainien était un peu... il était sur le chemin de son identification. Et aujourd'hui, le peuple est né.
Martin Duplantier, comment vous voyez un peu ça? Quelle est, selon vous, l'ampleur des dégâts, aussi bien architecturales que même culturelles?
Alors les chiffres ils sont très approximatifs évidemment. Nous donc moi j'ai beaucoup mené de workshops dans les universités ukrainiennes. Donc c'est vrai que je connais pas mal de gens qui sont encore sur place, qui n'ont pas tous pris les armes. Et donc c'est avec eux que j'essaie de travailler sur une cartographie des démolitions, mais aussi du patrimoine. Il faut savoir que, comme dans tout pays, l'UNESCO s'est intéressé à l'Ukraine, qui a un certain nombre de sites, mais qu'en fait ces sites-là sont assez réduits par rapport au véritable patrimoine. Donc on essaie de notamment de s'intéresser à tout ce qui s'est passé au XXe siècle et de cartographier tout cela pour pouvoir après le partager avec l'ensemble du reste du monde et puis mener des actions soit de fundraising soit de pédagogie par rapport à la manière dont on peut protéger encore s'il était possible un certain nombre de d'édifices.
Vous connaissez le centre-ville qui a été démoli à Kharkiv?
Bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a un élément qui est fantastique dans cette partie-là de Kharkiv qui a été construit en 1928, qui a été pendant des années le bâtiment le plus grand au monde, jusqu'à ce que les skyscrapers américains prennent le dessus dans les années 30. En fait, c'est une ville universitaire extrêmement de pointe du début des années 20, Kharkiv, et il y a toujours cette ébullition culturelle, universitaire, de recherche qui est très présente. Et donc j'ai moi-même été voir en effet certains de ces ensembles, notamment le Desprom qui lui est fantastique, c'est le premier grand bâtiment européen que peu de Français connaissent mais qui est vraiment splendide. Donc c'est aujourd'hui les chiffres c'est 5000 bâtiments complètement rasés, on a entendu 500 écoles, 200 hôpitaux, des sites culturels, et puis après il y a tous les sites industriels. Et dans les sites industriels, je voulais quand même dire que le patrimoine du XXe siècle, il y a énormément de choses hyper intéressantes côté industriel. Aujourd'hui, c'est le blackout total parce qu'en fait, ce sont des actifs stratégiques. Donc, on a très peu d'infos sur le sujet, mais ça fait partie aussi des dégâts très importants que l'on connaît depuis 20 jours.
Alors, c'est aussi l'objet de la chronique de David Trottin, La seconde mort du brutalisme.
Oui, bon, c'est pas facile de parler d'architecture dans ces conditions, et c'est vrai que je vais parler d'une petite partie du patrimoine ukrainien. Ces jours où la guerre revient en Europe, où, comme on l'appelle, l'ours reprend un poil guerrier pour attaquer l'Ukraine, et où l'Empire soviétique essaye de se reconstituer à coups de missiles. Bon, la brutalité s'impose au peuple ukrainien et à ses villes, et les images d'apocalypse urbaine qui défilent sur les réseaux sont à la fois si loin et si proches, elles sont surprenantes et si habituelles, tant les images réelles et fictionnelles nous ont habitués à la guerre chez les autres. Ces images de villes de l'Est blessées ou attendant le combat se mélangent dans mes souvenirs au roman graphique d'Enki Bilal. Enki Bilal, c'est un génial dessinateur d'origine yougoslave qui, dès les années 80, imagine un univers totalitaire, post-communiste, en y situant des intrigues dans les archétypes de l'architecture soviétique en ruine. Ces architectures, qu'on peut qualifier de soviètes brutalistes, égrenées dans les territoires sous contrôle, souvent hors de l'échelle humaine, caractérisaient les productions les plus emblématiques du pouvoir soviétique. C'était pour nous, lecteurs, une manière intrigante de démystifier le colosse communiste tout en mettant en scène son esthétique, en avant son esthétique. Le temps a passé et la vision personnelle de Bilal pour l'ancien bloc de l'Est est devenue populaire. De nos jours, le charme vénéneux de ces bâtiments a séduit un public au-delà du cercle des architectes. Le tourisme, l'urbex et les réseaux sociaux, Instagram en tête, ont permis une large diffusion de ces architectures et monuments étranges perdus aux confins d'un empire passé. La force architecturale du soviet brutalisme est démultipliée lorsque les constructions sont abandonnées. Je me souviens lors d'un séjour à Kiev de la puissante beauté d'une immense soucoupe volante en porte-à-faux sur la façade décrépite de l'Institut ukrainien de la science et de l'information, construit en 71 par Florian Yuriev. Une part de ce qui fascine aujourd'hui dans ces architectures, c'est l'aspect décadent entre ruines et abandon. Pour l'Occident, y compris pour les anciens pays frères, c'était la certitude que le grand ennemi de la guerre froide était en déroute, sur le flanc, avec ses parcs de sculptures de Lénine, ses bases sous-marins rouillés, ses palais du peuple échoués ressemblant à des vaisseaux intergalactiques de béton. La démocratie et l'économie mondialisée avaient gagné.
Ça vient d'où l'architecture brutaliste ?
Alors, le brutalisme, c'est un courant qui vient principalement d'Occident, à la base, et particulièrement des États-Unis dans les années 60. Le Corbusier est certainement aussi un peu coupable. Après le modernisme épuré post-Bauhaus et avant le high-tech anglo-saxon, le brutalisme questionne le beau et l'aimable et l'explore avec une certaine violence et la chose construite. La puissance du béton veut imposer un nouvel ordre mondial, une nouvelle échelle. Et le brutalisme, on peut dire que c'est le mariage du fonctionnalisme et de l'infrastructure. C'est une architecture de l'industrie, une architecture impérialiste qui s'affirme comme telle. Pendant les années de guerre froide, tous les terrains de confrontation sont bons pour l'Est et l'Ouest. La puissance se mesure en additionnant les têtes nucléaires, les champions d'échecs ou les missions spatiales. Et l'architecture n'y échappe pas. Le monde soviétique attaque l'Occident sur la construction, reprend le brutalisme, dont le rude nom porte des valeurs qui vont au-delà de l'esthétique, et il le démultiplie en faisant une œuvre forte et originale. De ces années de compétition reste un patrimoine qui, après avoir été abandonné, est aujourd'hui en première ligne des destructions et malheureusement concrétise pour le pire les images inventées par Bilal. La Russie, en voulant reconstruire l'Empire soviétique, détruit le patrimoine architectural du communisme.
Marina Lukasheva, on voit que les Russes considèrent l'Ukraine comme le berceau de la Russie. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train de détruire leur propre culture avec ce qu'on vient d'entendre de la part de David Trottin ?
L'Ukraine était considérée souvent par la Russie comme nouvelle Russie, cette petite Russie. Et forcément, il y avait un gros héritage des cultures d'empire russe et forcément c'est l'attaque de, pour reprendre ma phrase, c'est compliqué de d'estimer ce que les Russes essaient de faire parce que à l'époque on était le seul pays. On a eu le même héritage, l'héritage soviétique, brutaliste, qu'on peut retrouver partout. C'est la même écriture à Moscou, à Kiev, à Odessa. Donc forcément, c'est l'attaque de culture ukrainienne et russe.
Est-ce que vous pensez que Poutine va jusqu'à Kiev, détruire Kiev, détruire même Odessa qui représente quand même quelque chose de fort pour l'histoire russe, quelque part.
Ce qu'elle essaie de faire, hein, forcément. Je pense que le but, c'est de prendre le capital, puisque c'est symbolique. Odessa, moi, je j'ose même pas imaginer ça.
Martin Duplantier, comment vous voyez... cet aspect, puisqu'on dit souvent l'architecture est une expression de la culture, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de guerre de l'histoire dans laquelle le patrimoine est l'un des enjeux ?
Oui, le patrimoine, il est porteur de sens, il est porteur aussi d'une histoire, et l'histoire, on sait très bien qu'elle est toujours subjective. Et on lui fait dire ce qu'on souhaite entendre. Donc cette question de l'entrelacement de deux peuples, d'une culture qui est continue ou pas, elle est tout à fait intéressante. J'essaie à chaque fois de trouver des parallèles en Europe de l'Ouest. Je sais pas, c'est presque comme entre l'Italie et la France, et comme si on disait que Rome était finalement le berceau de la France. Et donc, bah, c'est normal, hein, on va y aller à l'Italie et puis on va récupérer tout cela. C'est un petit peu du même acabit. Donc oui, il y a là une manière, je pense, pour Poutine de remettre la main sur la source et de pouvoir contrôler toute velléité de divergence par rapport à sa ligne politique, par rapport à son projet politique et historique. Et c'est vrai qu'en cela, le fait de déplacer les populations, à nouveau russifier cette partie de l'Ukraine, bah, ça fait froid dans le dos parce que ça nous rappelle les pires heures du XXe siècle, hein, qui, il faut dire quand même que cette technique-là, elle a été sans arrêt mise en place depuis les années 20 et que il y a eu un certain succès, hein, pour contrôler les populations et pour pouvoir justement faire table rase de toute culture finalement un petit peu trop ancrée dans le sol et dans une région en particulier. Donc on voit bien que ce soit Lviv, que ce soit Kharkiv, que ce soit Odessa, tout est lié de part et d'autre des différentes frontières polonaises, russes, ukrainiennes. Voilà, donc on est européen et c'est une partie de l'Europe où les frontières ont été peut-être un petit peu plus chamboulées que par chez nous.
Alors vous avez tous vu certainement cette vidéo virale où on voit Paris bombardé, la Tour Eiffel sous les explosions. Est-ce que c'est une manière de nous faire prendre conscience à nous que par-delà les vies humaines perdues, est-ce qu'il y a aussi cette histoire, ce patrimoine, cette vidéo essaie de nous choquer, nous interpeller. Comment vous l'interprétez, vous, en tant qu'architecte?
Oui, c'est le cadre de nos vies, de notre quotidien qui est chamboulé. Enfin, moi, c'est vrai que ce sont les premières heures de cette guerre qui ont été extrêmement traumatisantes. Quand on connaît les lieux, quand on les voit à la télé complètement démolis, attaqués, c'est effrayant. Et donc, je trouve que c'est très fort d'avoir amené ça sur un site parisien, sur un site berlinois.
Marina.
Oui, c'était vraiment choquant parce que, mais en même temps, je me suis dit que c'est une belle représentation de conscience collective pour savoir en fait que ça ne concerne pas que l'Ukraine, hein, que c'est à la porte de l'Europe, de France. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les premières images de bombardement en Ukraine. Je connaissais les lieux, je connaissais les gens qui vécaient dans ce bâtiment. Tu peux pas expliquer ce que tu ressens en restant en distance. Et je pense que c'est ça l'idée de juste faire appel aux gens que bientôt ça peut arriver dans votre maison.
On peut pas regarder ça depuis notre petit écran de téléphone ou de télévision. Et à un moment, il faut aussi qu'on prenne conscience que c'est notre liberté, nos valeurs qui sont là mises en danger. Et il faut absolument qu'on se réveille. Enfin, moi, je suis effaré, quoi, du peu d'action, malgré les sanctions, etc. Mais on sait bien que tout ça, ça a été quand même largement préparé côté russe. Et qu'il faut qu'on soit beaucoup plus incisif.
Isabelle Régnier, vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous revenez de Chelm en Pologne, où l'architecte japonais Shigeru Ban a réalisé un de ses centres d'hébergement en carton, un peu comme celui qu'il avait réalisé à Kobe ou à Sichuan.
Oui. Alors, quand survient une catastrophe, nous, les Polonais, on est très bons pour mettre en place des solutions dans l'urgence. On se mobilise, on s'organise, on est super efficace. C'est quand les choses commencent à aller bien que ça dégénère. Tout ce qu'on arrive à faire alors, c'est fabriquer de nouveaux problèmes. C'est un architecte polonais qui me disait ça la semaine dernière en rigolant. Une petite blague pour faire redescendre la pression alors qu'on assistait depuis un pont à l'arrivée d'un train blindé de réfugiés ukrainiens à la gare de Rzelm. Connu pour sa carrière de craie, pour la réputation que lui a faite la littérature yiddish, pour les massacres des populations juives dont elle fut le théâtre plusieurs fois dans l'histoire, cette petite ville frontalière, saturée l'hiver par les fumées du charbon qui brûle dans les poêles, est devenue en quelques jours une gigantesque zone de transit. Près de 10 000 réfugiés y affluent chaque jour depuis l'Ukraine. Certains atterrissent dans les familles qui se pressent à la gare pour les accueillir. D'autres sautent tout de suite dans les bus qui sont là, prêts à les emmener plus loin en Pologne ou dans d'autres pays d'Europe. D'autres encore font escale dans les centres d'hébergement d'urgence, où ils passent une nuit, deux nuits, avant de repartir. Des marchandises affluent aussi à Rzelm, des dons de lits, de nourriture, de produits d'hygiène, de médicaments, qui arrivent tous les jours par camion. Ils atterrissent dans les locaux flambant neufs de ce qui devait être à l'origine un gigantesque incubateur de start-up, un projet financé par l'Union européenne qui n'aura pas eu le temps de remplir sa fonction. Là, ils sont triés par des armées de bénévoles et redistribués entre les centres d'accueil polonais et les villes ukrainiennes. L'architecte blagueur s'appelle Hubert Tramer. S'il était à Rzelm la semaine dernière, c'est parce qu'il supervisait donc ce projet d'architecture d'urgence, une structure de tubes en carton sur laquelle on accroche des tentures de tissu qui permet de partitionner l'espace de ces hangars où échouent les déplacés par centaines tous les jours en petites unités de 2, 3 ou 4 lits et de leur offrir ainsi, dans ces moments atrocement difficiles, un semblant d'intimité. Le système est donc, comme vous l'avez dit Olivier, c'est un système qui a été imaginé par Shigeru Ban, l'architecte japonais qu'on connaît en France pour avoir réalisé le Centre Pompidou-Metz ou la scène musicale, et qui s'est spécialisé dans l'architecture de papier, c'est-à-dire l'architecture de carton. Avec ce matériau léger, peu coûteux, il développe depuis une vingtaine d'années des systèmes d'hébergement pour les populations victimes de catastrophes. Un engagement qui lui a valu en 2014 de recevoir le prix Pritzker. Ce qu'il a mis en place à Rzelm est le plus sommaire de ses dispositifs. Avant d'arriver en Pologne, il était à Mayfield, une de ces villes du Kentucky qui a été ravagée par les tornades en décembre dernier, où il prévoit de construire une église, donc quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, sur le modèle de celle qu'il a faite à Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2013. Shigeru Ban a connu Hubert Tramer par Zoom pendant le confinement, dans le cadre des visioconférences du nouveau Bauhaus européen. J'avais vu passer moi-même des communiqués l'année dernière sur cette initiative lancée par Ursula von der Leyen, sans bien comprendre quelle fin elle était censée servir. Shigeru Ban, à qui j'ai posé la question, n'a pas bien compris non plus. C'est un truc où les gens parlent, m'a-t-il répondu en haussant les épaules. Lui se voit plutôt comme un homme d'action. Le nouveau Bauhaus européen aura au moins servi à ce qu'il sache vers qui se tourner le jour où il a vu à la télé les premiers réfugiés fuyant l'Ukraine. L'architecte japonais a été sidéré par la vitesse avec laquelle les choses se sont mises en place en Pologne, cette fameuse efficacité polonaise sur laquelle ironisait son ami polonais. En deux jours, Hubert Tramer a convaincu le maire de Rzelm d'adopter son système pour le troisième centre d'hébergement d'urgence qu'il s'apprêtait à ouvrir dans l'enceinte d'un ancien hypermarché Tesco. Il a recruté Jerzy Latka, un ancien élève de Shigeru Ban, auteur d'une thèse sur l'architecture de papier et professeur à l'université de Wrocław. Latka a lui obtenu d'une entreprise belge, Corex, qu'elle interrompt la production de son usine en Pologne et se lance bénévolement dans la fabrication de 1200 tubes en carton. En deux jours, Latka a réalisé une trentaine de prototypes. Il a pris le temps de les installer dans une salle attenante à la gare de Wrocław et pris la route pour Rzelm avec ses étudiants. En l'occurrence, plutôt des étudiantes. 80% d'étudiantes en architecture en Pologne. Le chantier a duré trois jours d'intensité pure, au cours duquel les jeunes gens et les jeunes filles ont été galvanisés par la force de l'expérience collective, le sentiment de l'urgence, par la joie des nouvelles amitiés qui se formaient. Les larmes allaient venir après, avec l'arrivée des premiers réfugiés, face à ces mères qui n'avaient aucune idée de l'endroit où elles allaient atterrir, qui s'installaient dans les petites cellules qu'ils ont mis tant de temps à construire, tant de soins à construire. Face à ces grands-mères qui arrivaient seules avec leurs petits chiens, sans parler aucune langue étrangère, sans rien connaître à l'informatique, à qui on expliquait qu'il n'y avait plus de place en Pologne, qu'il allait falloir trouver un autre pays d'accueil. Shigeru Ban s'attendait à prendre les commandes du chantier, mais lorsqu'il est arrivé, tout était terminé. Sa présence aura surtout fait venir les télés et permis à l'initiative de faire des émules à Cracovie, à Poznan, à Wrocław, à Varsovie et ailleurs, jusqu'à la France où ses équipes sont actuellement à pied d'œuvre dans deux gymnases parisiens. Le signe que l'effet Pritzker fonctionne même en temps de guerre. Pour cette institution qui a tacitement encouragé pendant longtemps l'alliance de l'architecture avec les pires dictatures, c'est un petit pas vers la rédemption.
Est-ce que vous connaissez d'autres expériences comme ça en Europe? C'est la seule qui soit assez efficace comme ça?
En ce moment, vous voulez dire pour la Pologne? Pour l'Ukraine, pardon. Non, je suis pas du tout sûre. Ce que je sais, c'est que Liz Diller donc Diller, Scofidio, Renfro, au moment où les architectes ont commencé à réagir à l'attaque de l'Ukraine par la Russie, il y a eu ce moment là dans les 10 jours qu'on suivit où tous les architectes, les grands architectes qui travaillent en Russie ont annoncé qu'ils interrompaient leurs activités. Liz Diller, qui je pense n'avait pas de chantier en Russie, mais qui a eu une expérience un peu malheureuse. Enfin, moi, je me souviens qu'elle, je l'avais interviewée, elle m'en avait parlé quand même de quelque chose de vraiment très compliqué et très pénible et qu'elle avait pas particulièrement envie de renouveler. Elle a fait ce parc qui est juste juste en dessous de la place rouge. J'aurais du mal à dire le nom, Zaradier ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc elle est intervenue non pas pour dire qu'elle arrêtait ses activités en Russie, mais pour dire qu'il fallait réfléchir justement collectivement à des solutions d'hébergement d'urgence et faire un peu phosphorer les architectes. Donc voilà, je ne sais pas si elle a imaginé, proposé quelque chose depuis lors. Je ne me suis pas enquis de ça, mais je sais qu'elle voulait, elle l'a déclaré. Bon voilà, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Je ne sais pas. Sinon, non, je suis au courant de rien.
Marina Lukasheva, vous êtes aussi impliquée à Marseille en ce moment dans cet accueil des réfugiés. Comment ça se passe pour vous?
Pour nous, normalement, on fait appel aux solidarités de Marseillais. Et c'est surtout eux qui sont venus à l'aide pour proposer leur appartement, maison. Donc on a vraiment beaucoup de propositions qui nous a permis, en fait, les premières semaines, pendant que les institutionnels ont mis en place l'hébergement d'urgence, accueillir les familles ukrainiennes chez les particuliers. Et donc ça s'est bien passé.
Il y a d'autres initiatives comme ça? Vous me parliez d'un bateau qui...
Voilà, hier, la Provence a sorti un article que pour centraliser les réfugiés, de toute façon, la France, c'est un grand pays européen. Marseille, c'est la deuxième grande ville en France qui va accueillir pas mal de flou. Donc, ils ont mis en place, ils vont mettre en place le bateau, le ferry Corsica, pour accueillir autour de 1007 personnes sur place.
Ce qui est quand même énorme.
Ouais.
Martin Duplantier, donc vous occupez aussi de l'accueil des réfugiés architectes, si on peut dire ça comme ça. Comment ça se passe concrètement dans l'action quotidienne?
Concrètement, en fait, on a donc d'un côté les structures d'accueil françaises, de l'autre, comme je le disais tout à l'heure, tous les métiers de la ville, les professionnels ukrainiens qui sont répartis un petit peu
partout.
Dans
les faits, ça a commencé vraiment?
Et dans les faits, ça a commencé, c'est-à-dire qu'on a les premiers salariés, donc ils ont en général, ils récupèrent leur carte de résident en 24 heures, donc ça c'est, il faut quand même saluer là l'efficacité administrative pour une fois, c'est le cas, et donc ça marche vraiment bien. On peut signer des contrats très rapidement. Et surtout, il y a la question de l'hébergement qui est forcément très problématique, mais qui peut se résoudre par déjà donc il y a Action Logement qui vient de lancer un grand plan pour pouvoir accueillir ces populations sur tout le territoire. Donc on est en train de se mettre en contact avec eux pour pouvoir faciliter les choses. Et puis deux, sinon on demande aux structures d'accueil de prendre eux-mêmes les baux de location et après de voir comment est-ce que cela se retranscrit sur les feuilles de paie, etc. Mais en tout cas ça fonctionne, donc on a les premières personnes qui arrivent d'Ukraine et qui sont intégrées dans les agences d'archi, dans les entreprises de construction, dans chez les aménageurs, voilà.
Et alors c'est une question qui avait un peu travaillé aussi Marina, c'est comment vous expliquez que il y a une telle solidarité pour l'accueil des réfugiés ukrainiens alors qu'elle ne s'était pas forcément mise en place pour les autres réfugiés comme les réfugiés afghans ou syriens ou érythréens?
Bah alors bon, il y a je pense que y a plusieurs éléments de réponse comme dirait l'autre. Il y a une proximité très claire, culturelle, géographique. Il y a aussi le fait que je pense que beaucoup d'entre nous s'identifient à ce peuple-là, au fait que c'est peut-être la première étape d'une guerre beaucoup plus large. Et donc, voilà, ils défendent aussi nos valeurs et notre liberté. Et puis après, il faut se souvenir que peut-être qu'avec avec la Syrie, par exemple, il y avait aussi un spectre, celui du terrorisme, qui était très présent et qui est là pour le coup. Heureusement, ne se retrouve pas en Ukraine, donc on parle de situations quand même qui sont très différentes. Mais je suis d'accord. On a vu d'ailleurs même à l'extrême droite que certains prenaient conscience de cette dichotomie et de cette incohérence. Donc c'est bien que ça puisse aussi peut-être nous nourrir pour les prochaines crises qui viendront.
On va retourner voir et écouter plutôt Anelina Starkova. Je lui ai posé la question sur comment elle voyait cette guerre en tant qu'architecte. Et écoutez, c'est assez bouleversant.
Pour le moment, j'ai mes clients. Je travaille pour la France, l'Allemagne. Bien sûr, c'est psychologiquement très dur de travailler et de me concentrer, spécialement sur l'architecture. Quand vous voyez tous ces bâtiments détruits, c'est tellement difficile. Vous réfléchissez beaucoup. En tant qu'artiste, je pense que j'ai besoin d'une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie de vie. Et une nouvelle stratégie pour construire. Vous voyez Tolstoï, l'écrivain russe? Il a écrit le livre Guerre et Paix. Et j'ai compris maintenant que lorsque vous vivez la guerre, tout est une introversion de la réalité. Le temps s'arrête. Comme une ode à l'enfer et au paradis. C'est même très dur de parler de ça. J'écrirai peut-être un livre, un jour. C'est indescriptible ce qu'est la guerre. Ce n'est rien que la mort. En tant qu'architecte, j'ai toujours cru en l'architecture. Toujours. Mais quand vous voyez à quel point les bâtiments peuvent si facilement être détruits, en une seconde, vous comprenez que le plus important, le plus précieux, c'est bien sûr la vie. Il y a beaucoup de choses à repenser. Il faut hiérarchiser les valeurs, voir ce qui est important pour nos vies, ce qui ne l'est pas. Et au fond, qu'est-ce que la culture? En tant qu'architecte, on spécule beaucoup sur la matérialité de ce que nous construisons. Les murs, les toits, les fondations. Mais il faut comprendre que le plus important est à l'intérieur du bâtiment. C'est l'esprit du lieu qu'on doit ressentir, qu'on doit respecter. Plus que tout, c'est la spiritualité de l'endroit. Le cœur du bâtiment, c'est les personnes qui y vivent. Quand vous subissez une destruction, vous comprenez que lorsque quelqu'un survit, alors le bâtiment survivra, l'architecture survivra. Sans personne, la culture est impossible. Prenez soin de vos clients et prenez soin du cœur des gens.
C'est un témoignage assez bouleversant. Comment vous réagissez, Martin Duplantier, à ces propos ?
Bah ouais, ça nous prend aux tripes et je sais pas qu'elle a complètement raison. C'est évident que le matériel d'un côté paraît complètement négligeable et en même temps par rapport à la vie et en même temps tant qu'il y a de la vie, il y a cette culture, il y a cet esprit et il y a la possibilité de reconstruire. Donc je trouve que dans les échanges que j'ai eus avec mes confrères ukrainiens, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme sur le fait que on allait gagner cette guerre et que on allait reconstruire et retrouver cet esprit des lieux. Et donc je pense que ouais, ça, on va y arriver, mais il faut se battre tous les jours.
Marina Loukacheva, comment vous réagissez par rapport aux propos de votre consœur ukrainienne?
Je suis absolument d'accord avec elle, que ça me rappelle aussi les scènes de films de Tarkovsky, quand tout s'arrête, le temps s'arrête, et il ne reste plus rien. Mais c'est vrai, et j'ai aussi eu beaucoup de témoignages de mes amis à Kiev, à Kherson, hein, qui est occupé par les Russes actuellement, et à Odessa, ils sont tous optimistes pour reconstruire le pays. Ils veulent pas quitter leur pays parce que c'est leur maison. Ils sont absolument persuadés que ça va s'arrêter, ça va se terminer très rapidement. Et ce n'est pas que le déni, mais c'est le vrai espoir. Et ils croient vraiment que... moi, je partage absolument cet espoir que le peuple ukrainien va gagner et l'Ukraine sera libre. On va juste y retourner pour reconstruire le pays.
Justement, si on parle de reconstruction du pays, est-ce que pour vous, cette guerre a changé votre façon de voir l'architecture et aussi le patrimoine ukrainien, enfin l'architecture ukrainienne?
Aujourd'hui, l'architecture ukrainienne, c'est plutôt l'héritage de l'architecture soviétique. Je pense qu'il faut revoir vraiment la vision de l'architecture ukrainienne. Qu'est-ce que c'est l'architecture ukrainienne demain? Je pense que ça va être une nouvelle façon de réflexion.
Et c'est quoi pour vous l'architecture ukrainienne, typiquement?
C'est l'architecture du village. Il y a architecture locale qui fait de local. C'est là où, par exemple, j'ai passé mes vacances d'été avec mes grands-parents. C'est des petits, on dit chata, c'est une petite maison d'artisanat qui accumuler autour de pièces de vie, les pièces pour les animaux, pour l'accueil. Donc pour moi, c'est ça l'architecture ukrainienne.
Et l'architecture contemporaine ukrainienne, est-ce que c'est une architecture qui est plutôt internationale, plutôt russe, plutôt spécifique à la localité ukrainienne?
Je pense que c'est plutôt spécifique. L'architecture contemporaine ukrainienne n'a pas encore trouvé sa façon d'expression. Je pense que ça va être une nouvelle étape pour nous.
C'est une vraie opportunité, en effet, de trouver sa voie et de reconstruire, de réparer peut-être aussi les problématiques urbaines que la période soviétique avait générées. C'est des sujets dont on parlait beaucoup dans les écoles d'architecture à Lviv ou à Kharkiv, etc. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut le voir, en effet.
C'est vrai que c'est étonnant. Le mois dernier, on avait une émission qui s'appelait Réparer la ville. Mm-hmm. Alors, la guerre n'avait pas encore commencé. C'était un peu presque prémonitoire. Mais pour le coup, là, c'est vraiment l'occasion de réparer la ville. Est-ce qu'il faut pour autant effacer le passé russe de l'Ukraine?
Ben non, c'est pas, la question n'est pas là, parce que le passé Odessa, qui est aussi une ville fondée à un moment donné par les Russes, ça fait partie de ce patrimoine ukrainien. Donc, il n'est pas question d'effacer des parties de l'histoire, mais au contraire de pouvoir se projeter vers un futur partagé avec des valeurs qui sont celles de ce peuple ukrainien et qui a choisi son indépendance, qui a choisi de porter au pouvoir une démocratie avec certaines valeurs. Et donc, c'est ce contre-exemple qui aujourd'hui est combattu par Poutine. Parce que justement, on montre qu'un peuple slave, post-soviétique, post-Union soviétique, arrive à se prendre en main et à se projeter vers la démocratie, vers la liberté, et à se détacher de ces siècles de tsarisme et de soviétisme.
C'est un peu la reconstruction de la culture ukrainienne qui va créer cette nouvelle culture architecturale forte.
Mm-hmm. Ouais, et puis il va y avoir aussi toutes les questions de réemploi des structures plus ou moins démolies, plus ou moins on a là une banque de matériaux à ciel ouvert. Ça va être, moi c'est étonnant parce que j'étais au festival d'architecture de Lviv au mois de juillet. On a fait une exposition d'ailleurs sur le prix AMO 2021, et puis je suis intervenu sur différentes questions, celle du patrimoine et celle du réemploi. Et on voit bien qu'il y a une appétence très claire parmi nos confrères ukrainiens par rapport à toutes ces questions-là. Donc, Lviv est pétri d'histoire. C'est une superposition de couches de différentes périodes autrichiennes, polonaises, soviétiques. Il y a une église arménienne en plein cœur. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et donc oui, on a tout pour. Il y a tous les ingrédients pour pouvoir reconstruire de manière intelligente et ce pays. Donc moi je trouve que on a envie de passer de tourner la page là et puis de retrouver toutes ces forces vives pour pouvoir repenser cela. Il y a aussi les Khrouchtchovska, donc c'est la période sous Khrouchtchov qui est ukrainien départ et qui a démocratisé l'utilisation de panneaux préfabriqués pour construire des immeubles collectifs d'environ 5 étages et qui ont pullulé de Vladivostok jusqu'à Lviv. Et qui sont aujourd'hui en fin de vie, très clairement. Il y a des problématiques techniques qui sont avérées. Donc voilà, comment est-ce qu'on revoit aussi tout ce tissu là. Je parlais ce matin, j'avais une visio avec des confrères à Lviv sur le patrimoine urbain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'architecture, mais qu'est-ce qu'on fait aussi du patrimoine urbain? Est-ce qu'on se donne la possibilité de repenser un certain nombre de quartiers, la présence de la voiture, qui aujourd'hui, jusque-là, en tout cas, était extrêmement présente, y compris dans les cœurs d'îlots. Enfin, on pouvait se garer n'importe où. Donc, il y a toute cette question aussi de la mobilité qui sera repensée. Donc, c'est vraiment, une nouvelle page.
Marina Blekacheva, c'est peut-être trop tôt pour en parler, mais est-ce que vous pensez, retourner en Ukraine pour reconstruire le pays une fois que la guerre sera gagnée?
Gagnée. Forcément gagnée. Oui, je me pose cette question aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je me considère plus française, mais mon cœur, il est toujours en Ukraine. Donc oui, dès que c'est possible, avec les moyens... peut-être avec l'expérience que j'ai obtenue en France, avec les réseaux, avec les architectes, avec les ingénieurs, pour faire appel et revenir en Ukraine, oui, je pense que ça va être la prochaine étape.
Nous retrouvons maintenant Dominique Boré pour une rubrique en continuité avec ce que nous venons de dire, justement. Bonjour Dominique.
Bonjour. Avant de commencer, je voulais dire que j'ai été extrêmement bouleversée par ce témoignage et que je me disais que mon agenda allait paraître bien futile et j'espère qu'elle me pardonnera. Donc, mon agenda aujourd'hui se consacre à la guerre en Ukraine et puis vous conseille une exposition sur le devenir de l'homme et celui de notre planète, de sa planète. Sur France Culture, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit relate l'Ukraine millénaire, bien différente quand elle est racontée depuis le Kremlin. L'histoire donc remonte... Je ne suis pas une spécialiste, hein, vous me pardonnerez. L'histoire donc remonte au IXe siècle, quand les Vikings de Suède fondent l'état médiéval de la Rousse et érigent Kiev en capitale. Elle se poursuit au XVe avec les incursions dévastatrices des Tartares de Crimée et des Turcs, et au XVIIe avec les batailles des Cosaques ukrainiens pour se libérer de la tutelle polonaise. Les tutelles sont le malheur de l'Ukraine. Il fonde l'Hetmanat, considéré par les historiens comme le premier État ukrainien, qui est rapidement absorbé par l'Empire de toutes les Russies. Lorsque la Révolution éclate en 1917, les nationalistes ukrainiens créent la Rada, Assemblée indépendante et souveraine. L'Ukraine tombe dans l'escarcelle de l'URSS après 4 ans d'une guerre civile où s'affrontent rouges, blancs, paysans, insurgés et nationalistes. Comme il n'est pas de guerre sans raison, sans prétexte, sans argumentation, Vladimir Poutine, dans son discours du 12 juillet 2021, donne à lire sa vision de l'histoire de ces deux pays et notamment leur supposée origine commune, incarnée par leur unité culturelle, linguistique et religieuse. Ce sont donc 4 podcasts que je vous conseille vivement pour comprendre l'acharnement barbare à soumettre l'Ukraine au-delà même des objectifs économiques et géopolitiques du dirigeant du Kremlin. C'est sur France Culture et c'est le cours de l'histoire de Xavier Mauduit que vous retrouvez d'ailleurs le soir sur Arte, qui a toujours une rubrique qui allie à la fois un grand savoir et un grand humour. Toujours sur l'Ukraine, Up Magazine vient de faire 3 articles que je vous recommande. Des trains, je vous le cite, le premier article, des trains de déportés ukrainiens seraient envoyés dans, entre guillemets, des camps de filtration en Russie. Le deuxième article, la guerre en Ukraine risque de mettre hors de portée les objectifs mondiaux en matière de climat. Et le troisième, les employés de Tchernobyl, otages atomiques de Poutine. Up Magazine emprunte depuis 10 ans la voie d'un journalisme de décryptage sans compromis des informations. Ces journalistes ne courent pas après le scoop. Ils s'attachent au contraire à rendre accessibles des informations complexes. L'environnement, le dérèglement climatique, l'alimentation, la santé, le vivant, l'éducation, le numérique, l'intelligence artificielle sont autant de thèmes qui focalisent l'attention aiguë des éditorialistes, chroniqueurs et reporters de Up. Ils scrutent aussi ce qui se passe dans les labos de haute technologie, rendent compte des innovations issues de la recherche comme de l'industrie. Ils repèrent et mettent en lumière les nouvelles solidarités, les initiatives pionnières, les démarches citoyennes inspirantes. Martin, je pense qu'il faudrait que tu te rapproches d'eux. Ils vont également dans les galeries, les ateliers d'artistes, les musées, car c'est aussi là que se dessine le matin de demain, le monde de demain, et le matin de demain aussi. La structure du magazine, c'est une association loi 1901, financée par les abonnements de ses lecteurs, les délivre de toute dépendance médiatique, industrielle et financière. C'est un magazine que je trouve extrêmement intéressant. J'inonde Olivier et David de ces articles pour alimenter notre émission, mais il faut absolument s'abonner, c'est très pertinent. Et puis c'est indépendant, je le redis. Enfin, je terminerai par l'exposition « Aux frontières de l'humain » au Musée de l'Homme. Vous avez certainement vu ces grandes affiches dans le métro. Elle explore nos limites, interroge le devenir de la planète et notre devenir d'humain qui n'a jamais disposé d'autant de pouvoir. L'homme réparé, augmenté, amélioré, qui relevait autrefois de la science-fiction est devenu réalité. De là une tentation de toute puissance, voire d'immortalité. Plus que la lancinante question « d'où nous venons ?», le champ d'exploration de l'exposition concerne plutôt du « où allons-nous ?» et dans quelles conditions. Cette interrogation shakespearienne est organisée en plusieurs parties, introduite par un jeu très personnel. Je suis un animal d'exception, je suis un champion, je suis un cyborg, je suis un mutant, je suis immortel. Avant de brutalement tout remettre en question par « on va tous y passer ». annonçant pour l'humanité tout entière des lendemains peu enchanteurs sur une planète malade. Toutefois, et vous vous en doutiez, la fin est toujours et plus optimiste, l'épilogue envisage les possibilités d'un avenir commun. Cette muséographie est très percutante. Elle conjugue sur 600 mètres carrés une grande variété de dispositifs audiovisuels, multimédia et sonores, œuvres d'art contemporain et objets muséographiques comme de vrais spécimens naturalisés d'animaux et végétaux menacés d'extinction issus de la collection du musée, à voir avec vos enfants et adolescents.
Merci Dominique. Martin Duplantier, avant de conclure cette émission, peut-être un dernier mot en réaction à l'intervention de Dominique Boré.
Alors, j'écoutais attentivement Dominique. C'est vrai que il y a un foisonnement de d'interventions sur ce conflit, de perspectives qui sont vraiment passionnantes. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir, écouter ces podcasts, mais aussi à participer activement. On va lancer de notre côté donc donc parallèlement à cet appel aux professionnels, quelque chose qui sera plus axé sur la reconstruction et sur le patrimoine. On ouvre grand les portes à toutes les expertises françaises, européennes sur le sujet. On travaille avec les étudiants aussi ukrainiens des écoles d'archi pour justement renseigner, cartographier tout cela. Et ce serait bien qu'on puisse avoir des relais auprès des maisons d'architecture, peut-être auprès des musées, peut-être auprès des instances culturelles françaises ou européennes, et qu'on fasse un petit peu vivre ce patrimoine et cet espoir de nouveau patrimoine à construire. Mmh.
Très bien, le message est passé. Est-ce que vous pouvez rappeler, on va mettre le lien dans la description de ce podcast, mais est-ce que vous pouvez rappeler le lien, le site internet qui permet de se connecter et d'avoir des informations?
Alors, pour l'instant, on est sur un Google Form, donc je le ferai passer parce que c'est un lien qui est plus technique que
voilà, vous le retrouverez dans la description de cette émission.
Voilà.
Marina Lukasheva, un dernier mot avant de conclure.
J'espère de tranquer bientôt la paix en Ukraine et qu'on va tous se réunir la prochaine fois pour discuter comment passer à l'acte et reconstruire tout ce qui est détruit actuellement en Ukraine.
Merci de ce message optimiste. Et j'espère que l'histoire vous donnera raison. Il nous a semblé donc important de réaliser cette émission sur la destruction du patrimoine ukrainien. Tout d'abord parce que c'est une attaque à la culture de ce pays, mais aussi parce qu'elle remet en question de nombreux fondamentaux de l'architecture. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci à nos invités, Martin Duplantier, architecte et président d'AEMO, Marina Lukasheva, architecte, à Isabelle Régnier du Monde. Merci à David Trottin, Dominique Boré, que nous retrouvons tous les mois. Merci à Jason à la technique, Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de Prisme. Je vous donne rendez-vous le jeudi 28 avril, après le second tour des élections, pour une émission dans laquelle nous aborderons les enjeux du prochain mandat présidentiel. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast depuis votre player habituel ou sur le site de bâtiradio.com. Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.bâtiradio@gmail.com ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite.
Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présenté par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.